Mais je crois que c'est légal en fait, parce que faut prévenir que ça.
Ça commence?
Non, faut prévenir que ça enregistre.
Déjà, ça enregistre?
Ouais, bah oui, parce que comme ça que j'enregistre mon cours. Après, comme ça, je vais peut-être le mettre sur le. Ouais, il y a des gens qui m'ont demandé.
D'accord.
Oui, on a commencé par
D'accord.
Dalet. D'accord. Je vais vous dire où est-ce qu'on est dans notre périple d'Alette. On est un peu plus loin, plus bas. Ouais. Dans le périple d'Alette. On était page dans la page sa mère dans l'édition bleue. Omnam le fiat varie, ma chère Amarne. D'accord. Donc, en fait, Jonathan, si tu n'étais pas là la semaine dernière, on va faire un peu un résumé de la semaine dernière.
C'est
Donc, on
gentil.
a dit, ça va? Tu m'entends?
Très bien.
D'accord.
Merci beaucoup. C'est très gentil de faire pour le rappel.
D'accord. Donc, on avait dit la semaine dernière comme ça, on avait dit qu'il y a une question. On voit que le premier Beth-Amikdash a été détruit à cause des trois fautes cardinales, alors que le deuxième Beth-Amikdash a été détruit à cause de Sinat Rinab. Et la question, c'est pourquoi est-ce que c'était comme ça? Et donc, jusqu'à là, le Maharal, il a proposé plusieurs Théroutsim. Et là, on est à Omnam l'Ifiat Dvarim Asher Amarnu. Je ne sais pas si c'était à l'édition de Hartmann, c'est page sa mère dans cette édition-là.
J'ai une autre édition, mais c'est bon, j'ai trouvé le truc.
D'accord.
Merci.
Pas de problème. Non, ok. Alors, comme ça. Alors, il dit comme ça. Une seconde. Il dit comme ça. Il dit comme ça, qu'en fait, dans le Beth Amikdash, Rishon, il y avait un plus grand Yetzer Hara. Ouais, pourquoi? Parce que l'homme, il a trois kofot. Je crois que c'est là qu'on était. Il a trois kofot. Il a trois kofot. Et c'est l'intellect, la vitalité et l'aspect corporel. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, un enfant, il est beaucoup plus vif qu'un adulte. Il a beaucoup plus d'énergie vitale qu'un adulte, mais d'un point de vue de la force brute, il en a moins que l'homme. Donc il y a le nefesh, c'est l'énergie vitale, et il y a la force corporelle brute, qui est en fait une fonction du corps, pas juste de la vitalité de quelqu'un. Donc on a trois niveaux d'énergie, si on veut, dans l'homme. L'intellect, la vitalité elle-même et la force du corps. Et il y a trois fautes qui correspondent à ces force là. La Avodah Zara, c'est une faute intellectuelle qui pense à quelque chose d'étranger à la réalité. Guilou et Arayot, c'est attrait au corps, c'est-à-dire qu'il rend impur son corps, ouais, que son corps lui-même, il devient impur dans le doute. Et le meurtre, c'est la négation de l'âme, c'est la négation de la vitalité. Ouais, et donc le meurtre, en fait, quelque part, tuer l'autre, c'est affirmer que moi-même, je ne suis pas vivant, j'ai pas de nefesh. Tuer l'homme, nier à l'autre sa propre vitalité, c'est renier sa vitalité propre. Et donc, dans le premier Beth Amikdash, où l'homme, il était vraiment quelqu'un, alors, ces trois fautes, c'était une négation de l'homme en ce qu'il est homme. C'est-à-dire que chaque homme, dans le premier Beth Amikdash, la majorité des gens, c'était des personnes, c'était des gens. Et leurs fautes, ces fautes-là, elles avilissaient l'homme jusqu'à qu'il n'y ait plus d'homme et donc il n'y a plus de Beth Amikdash. Mais dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas besoin de s'attaquer à l'individu. Dans le premier Beth Amikdash, c'était des individus. Il y avait beaucoup d'individualité. Il y avait les Nevi'im, il y avait les Bnéa Nevi'im, il y avait des Tzadikim. Il y avait des individualités fortes. Et donc, le Yetzirah, il devait se battre contre les individus. Dans le Beit Sheni, les individualités, elles n'étaient pas tellement présentes. Mais il y avait une Ahdout. Les gens, ils étaient quelqu'un, pas tout seuls. Ils étaient quelqu'un parce qu'ils faisaient partie d'un groupe. dans le clan Israël, chaque individu il avait sa place, mais pas le pape à lui tout seul. Donc il suffisait de les faire se détester les uns les autres, et donc chacun il était pris en tant que tel. Dans Baït Chéni, si on regardait chaque homme à la loupe, il valait pas grand-chose. Un homme du Baït Chéni pris à la loupe, il vaut pas grand-chose. Ah, mais quand il fait partie d'un groupe, alors là, oui, c'est quelque chose. Dès qu'on installe la Sinatrinam, Yoni, ton micro, il est ouvert, je sais pas si t'as remarqué. Dans le Baït Chéni, il y avait dès qu'on a mis la Sinatrinam, donc l'individu, il ne se mêle plus aux autres. Et il perd tout de suite sa force, et donc le Beth Amikdash aussi, il s'effondre. Ouais. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait un Beth Amikdash, faut qu'il y ait des gens. Si les gens ne sont pas à la hauteur, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc dans le premier Beth Amikdash, le Beth Amikdash, il existait grâce aux individualités. Les trois fautes, elles avilissent l'homme, et puisque l'homme, il est avili, il n'y a plus de Beth Amikdash. Dans le deuxième Beth Amikdash, l'individu, il valait pas grand-chose. Mais le Tzibour, il était fort. La Sinatrinam, elle casse le Tibo. Et donc, le deuxième Beth Amikdash qui était basé, qui était fondé sur la Tiboriyout, sur la Ahdout du Ham Israël, forcément, elle est détruite parce que dès que on dénoue les liens qui existent entre les hommes, chaque homme il est ramené à sa madriga, il est ramené à son niveau, et vu qu'il ne vaut pas grand-chose, bah, y a plus, on ne mérite plus le Beth Amikdash. Voilà. Jusqu'à là, c'est bon?
Juste une question, enfin, bon, qui n'est pas directement liée à ce que dit le Maharal, mais ce qu'on appelle Sinatrinam, enfin, c'est quoi cette expression de Rinam? On a l'impression que c'est juste la Sina en réalité. Enfin, quand on lit le Maharal, enfin, une simple Sina suffirait. C'est quoi ce Rinam là? Bon, c'est une
Parce
question
qu'en fait,
générale. Mais...
oui, en fait, il semblerait que toutes les synodes, c'est des sinatrinam. Il n'y a pas de haine qui ne soit gratuite, sauf la haine du pécheur, sur lequel, au sujet duquel il y a marqué Tahlit asina senetiv. Ouais, le pécheur, l'ennemi, alors lui, je le déteste du fond du cœur. Tahlit asina. Mais détester un autre juif juste parce qu'il me casse les pieds ou parce qu'il s'est assis, parce que, il a eu le chichi à ma place, ça, c'est sinatrinam, effectivement.
D'accord, ok. Merci.
Voilà. D'accord. Alors il continue. Il dit, si on regarde, il y a quelque chose de très profond. Sache que comme il y a beaucoup de créations dans le monde, il y a plein de créatures, il y a plein de créations, il y a plein d'objets, la faune, la flore. Et l'homme, il a été choisi pour servir Dieu spécifiquement. Et l'homme, c'est ce qui est le plus choisi de tout ce qui existe sur Terre. L'homme, il a été choisi, toutes les créatures qui existent sur Terre. Ce n'est pas le lion, ce n'est pas le tigre qui ont été choisis, mais c'est bien l'homme. Et quelque part, comme il dit le Ramchal, même les malachim, ils n'ont pas été choisis pour servir Dieu. L'homme, il a été choisi même plus que les malachim. Ouais, parce qu'on dit que l'homme, il était choisi plutôt qu'un singe, c'est logique. Mais que l'homme, il était choisi pour servir Dieu plus que les malachim, ça déjà, c'est un chidouche. Ouais. Vous êtes d'accord? Si, ouais.
Oui,
Alors.
ça va contre
Oui, donc on est
la loi. On peut plus avoir le choix que le malheur.
oui, mais on a été choisi pour avoir le choix. C'est-à-dire que le malach, il n'a pas été choisi pour avoir une Bechira. L'homme, il a été choisi justement pour avoir une Bechira et pour servir Dieu. Et de la même manière que l'homme, il est spécial, de la même manière, dans le monde, il y a plein d'endroits, il y a plein de lieux. Et il y a un lieu qui est spécifique, il y a un lieu qui est spécial, c'est le Mikdash. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas Yerushalayim, pourquoi est-ce qu'il dit pas? Parce qu'en fait, le Beth Amikdash, il peut se promener quelque part. Il y avait dans le désert, il y avait le Mishkan. La Gemara, elle dit dans le Shabbat que chaque endroit où Dieu il disait de mettre le Mishkan, c'est l'endroit du Mishkan. C'est pour ça qu'on considère que le Mishkan, pendant tous les 40 ans qu'ils étaient dans le désert, il n'a pas bougé d'endroit. Comme ça, la Gemara, elle dit dans Maseret Shabbat. Donc, mais il y a un endroit spécifique, c'est l'endroit du Mikdash. Et de la même manière que dans l'homme, il a été choisi pour servir Dieu. Et dans l'homme, alors, on a insufflé une neshama qui est une étincelle de la gloire divine. On avait expliqué la semaine dernière que la gloire divine, ça veut dire c'est la présence. La gloire, c'est la présence. C'est le poids de la. Ouais, c'est que. Il y a quelqu'un qui est là, sa gloire, c'est le fait qu'il impose une présence. Je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'il avait rencontré un. Il avait rencontré un. quelqu'un de très important, qui a des très lourdes responsabilités, vraiment des responsabilités de vie ou de mort, et qui s'était senti écrasé par la présence de cette personne. Parce que je parlais avec quelqu'un qui a des responsabilités folles. Ouais, si on rencontre un président ou un chef des armées ou etc., sa présence, elle est très forte parce qu'il a des très grandes responsabilités. Ça, c'est le kavod. Le vrai kavod, c'est ça, c'est la présence. Donc, par l'homme, grâce à l'homme, grâce aux Juifs particulièrement, Dieu, il est présent sur terre. Kutcha brichu veoraita, veshrinta, l'homme juif, il incarne la présence divine. Donc, la neshama, c'est le kavod. Le kavod qu'il y a dans l'homme, c'est sa neshama, en fait, c'est que Dieu, il a donné une mission. La neshama qu'on a en nous, c'est cette présence divine. On est spécial parce qu'on a en nous une présence divine. On pourrait développer ce sujet vraiment, pas ad nauseam, parce qu'on parle pas de nausée, mais on peut, voilà, c'est un sujet qui est très vaste, c'est un sujet qui est très vaste. Mais dit de la même manière que la présence divine, elle s'incarne dans l'homme, elle est présente dans l'homme, de la même manière, Hachem, il a fait rayonner dans le Mikdash sa gloire et sa lumière. C'est-à-dire de la même manière que quand on voit un homme, on voit la présence divine, de la même manière, dans le Beth Amikdash, il y avait la présence divine. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui était spécifique, qui était sanctifié pour Hachem. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est désigné. Mekoudash, ça veut dire désigné, qui n'a qu'une fonction. Ouais, comme une femme, elle est Mekoudeshet, qu'elle est interdite à tout homme et qu'elle est réservée pour son mari. Le Mikdash, c'est un endroit qui est réservé pour la gloire divine. Et du coup, ça ressemble absolument à l'homme. De la même manière qu'au sein de l'homme, il y a la Neshama, qui est une étincelle de gloire divine. De la même manière, dans le Mishkan, il y a une étincelle, ou même peut-être plus qu'une étincelle de gloire divine. Et c'est ce que Chachamim, ils ont dit dans Brachot, Kol Adam Shesh Bodat, Kol Adam Shesh Bodat, Keilu, Nivne Bet Amikdash Beyamav. Et ça, on l'a expliqué ailleurs, que l'homme et le Mikdash, en fait, l'homme, c'est un Mikdash à petite échelle, le Mikdash est un homme. Ouais, il y a, dans le Rambam, il développe cette idée qu'il y avait des pièces et que chaque pièce, elle correspond à un différent membre de l'homme, etc., etc. C'est quoi l'idée? C'est que l'homme, il est dévoué, il a été créé, il est dévoué à incarner la gloire divine. Et le Mikdash, c'est un endroit où on rentre et on ressent la gloire d'Hachem et on vit la gloire d'Hachem. Et dans la Neshama de l'homme, en fait, il y a trois camps, il y a trois parties, il y a trois sections. Et chacune, elle a une doucha. Il y a quelque chose que on va considérer qu'il a incarné dans le foie, c'est la force. Je ne sais pas pourquoi dans la philosophie ancienne, on assimilait le foie à la force. Je ne sais pas. Mais le sang, peut-être, le sang. Et ça, c'est la force naturelle. Et c'est de là que vient l'appétit, le fait de grandir, la croissance, la capacité à procréer, elle vient, c'est donc il y a en l'homme une force et une vitalité naturelle qui permet en fait qui permet d'exister, de grandir et de se reproduire. Il y a une deuxième chose, c'est dans le cœur, c'est ce qu'on appelle le nefesh, et ça c'est le siège des sentiments, la vengeance, la rancune, la haine et vice-versa. Et ça, son siège, c'est le cœur, parce que le cœur, on sent bien, même quand quelqu'un il n'est pas bien, il le ressent vraiment dans sa poitrine. Et le troisième niveau, c'est l'intellect, dans le cerveau, où il y a la pensée, la réflexion, il y a le souvenir, et il y a le date, c'est la connaissance. Ouais. Et donc, il y a le savoir, la réflexion et la connaissance. C'est ce qu'on appelle, en fait. Donc, c'est les trois niveaux de vitalité qu'il y a dans l'homme. Ça correspond dans la pensée du Ramchal ou des Kabbalistes, ça correspond à ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Unchama. Neshama, c'est l'intellect, peut-être même plus que l'intellect, quelque chose qui est un petit peu au-dessus de l'intellect. Ruach, c'est la parole, mais la parole, elle naît en fait du souffle, et le souffle, ça vient du coup cœur-poumon. Ouais, c'est-à-dire que même d'un point de vue médical, quelqu'un qui a des problèmes de poumon, souvent, on va faire une greffe cœur-poumon. Donc, c'est le souffle. Et quelqu'un qui, par exemple, il a des problèmes cardiaques, il a moins de souffle. Donc, et ça, c'est le rouar, le souffle qui permet de parler, qui permet de s'exprimer. Et il y a le nefesh qui fait qu'on est vivant. Parce qu'on peut avoir un corps, mais si on n'a pas une vitalité, Alors, ce corps, il est inerte, il ne se développe pas. Et Kenegedze, dans le Mikdash, il y avait aussi trois machanot. Machane Israël, Machane Levia et Machane Shrina. Il y avait, dans le désert, il y avait trois niveaux. Il y avait les Shvatim qui étaient placés en carré. Ouais, donc il y avait chaque fois trois Shvatim de chaque côté. Au milieu, il y avait un espace. Après, autour du Mishkan, il y avait le Machane Levia. Et après, au centre, il y avait le Mishkan. Ça, c'était dans le désert. Et après, à Yerushalayim, ça a un peu changé. Machane Israël, c'est Yerushalayim. Tout Yerushalayim, c'était Machane Israël. Et donc, par exemple, un Metsora, il devait sortir de Yerushalayim. Le Machane Levia, c'est le Harabait. Tout le Harabait, c'est Machane Levia. C'est une doucha supplémentaire que tout celui qui a une doucha qui sort de son corps, il doit sortir de là-bas. Et Machane Shrina, c'est la Hazara, le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, qui avait une doucha particulière que aucun homme impur n'avait le droit de rester là-bas. Et de la même manière que, et si on regarde, en fait, il y a encore plus que ça, parce que quand on regarde dans le Mishkan lui-même ou dans le Mikdash, il y avait trois niveaux. Il y avait la Hazara, le Echal et le Kodesh HaKodashim. Et il dit, mais même dans la réflexion, il y a trois niveaux. C'est ce qu'on appelle Chorma, Bina, Vadaat. Je pense que c'est à ça qu'il fait référence. Il y a trois dans l'intelligence, il y a trois niveaux. Il y a la chorma. Chorma, c'est la connaissance. La connaissance, c'est qu'on te dit A et B, ça fait A, B et A, ça fait Ba. Ça, c'est une connaissance. Bina, c'est la capacité d'analyser et de développer. On appelle, donc là, c'est ce qu'on appelle l'esprit de synthèse. Ouais. Chorma, c'est la connaissance. La bina, c'est la synthèse. Et le da, c'est le savoir. C'est-à-dire que on me donne une connaissance, je vais l'analyser, je vais partir de ce que je sais pour développer plus loin, et je vais arriver à un savoir qui est plus vaste que ce qui m'a été donné. Donc, en fait, il y a trois niveaux. Il y a trois niveaux, même dans l'intellect, il y a trois niveaux. Ouais, quand on parle de Chochma Bina Vadat, c'est de ça qu'on parle. Si ça vous intéresse, dans la Kabbalah, on appelle ça, c'est les trois têtes du Keter. Ouais, si peut-être quelqu'un a croisé ça. Ouais. Et donc, dans le Mikdash, il correspond à l'intellect, et il a trois sections lui-même, qui correspondent en fait à ces trois niveaux. Chochma, Bina, Vadaat. Et donc, on voit que le Mishkan, il est vraiment à l'image de l'homme. Le Mishkan, le monde, il est vraiment Yerushalayim, Harabait, Bet HaMikdash, Nefesh, Ruach, Neshama. Après, quand on réfléchit dans le Mikdash, il y a trois parties. Il y a la Hazara où n'importe qui peut rentrer. Il y a le Echal où on a le droit de rentrer qu'un Kohen quand il fait la Avoda. Et il y a le Kodesh HaKodashim où on ne peut rentrer que le Kohen Gadol et Yom Kippour. De la même manière, dans l'intellect humain, il y a trois sections. Chochma, Bina, Vadaat. Donc, il y a un parallélisme, il y a une équivalence entre le Mikdash et l'homme. Ouais. Et donc c'est ça qui développe que dans la Hazara il y avait le Mizbéar, dans le Echal il y a la Menorah et le Shulchan, et dans le Kodesh HaKodashim là-bas il y a le Aaron. Le Aaron c'est la Torah, l'Aaron c'est le savoir lui-même. Voilà. Mais il dit ici on va pas développer, il dit qu'il a développé dans Kvorot Hashem. Voilà. Mais quand on dit que dans l'âme il y a trois parties, quand on dit qu'il y a le Nefesh, la Ruach et la Neshama, c'est pas qu'en fait la Neshama elle est en Lego, qu'il y a trois morceaux de Neshama. C'est pas du tout ça le pshat. C'est juste qu'on a une Neshama, mais qui agit de trois manières différentes, qui a trois effets différents. C'est-à-dire que la Neshama elle agit sur le corps, la Neshama elle agit sur la parole, et la Neshama elle agit sur l'intellect. Donc on a une Neshama qui a trois effets distincts. Ouais. C'est clair? Quoi?
Comment est-ce qu'elle agit?
C'est ça sa propriété. Comme moi, par exemple, un homme. On comprend bien qu'un homme, il peut conduire une voiture et parler et regarder. C'est le même homme, ce n'est pas trois hommes. Mais en fait, la neshama, c'est ça. La neshama, elle sert de force vitale, elle nous donne le pouvoir de parler et elle nous donne le pouvoir de réfléchir. Mais c'est une neshama qui a trois effets distincts. Donc en fait, si on regarde, on peut regarder la Neshama d'un point de vue, on appelle phénoménologique, dans les phénomènes. Comment est-ce qu'on perçoit la neshama? La neshama, on perçoit qu'elle a trois effets. Elle a trois effets. Nous, comment est-ce qu'on la neshama, on l'aperçoit pas. Non, ce qu'on appelle, mais ce que nous on appelle la neshama, on a, oui, voilà. Il y a la neshama au sens large. J'ai une neshama, on a une neshama. Et après, quand les chachamim parlent de neshama, ils parlent surtout d'un des aspects de la neshama. Et c'est vraiment la partie la plus élevée, son impact le plus fin, le plus raffiné. Mais la neshama, l'âme, surtout. Oui. Oui. Donc en fait, cette âme que neshama shenadadabi teorai, on la perçoit de trois manières. De la même manière que Hachem, on ne connaît pas Hachem. On le perçoit de par ses actions. De la même manière, la neshama, on la perçoit de par ses effets. C'est quoi ses effets? La première, c'est que je suis vivant. Donc, je mange, je digère, je remplace. Voilà, il y a les ongles qui poussent, on guérit, etc. On l'aperçoit dans le fait qu'on est capable de parler et on l'aperçoit dans le fait qu'on a une conscience et qu'on a un intellect. Mais c'est donc, la neshama, elle s'exprime de trois manières, mais en fait, c'est une seule chose. De la même manière qu'Hachem, il est Echad, mais il s'exprime dans le monde de différentes manières. Donc maintenant, quand la neshama elle est au plus fort, et quand la neshama elle est au plus fort chez l'homme, on la perçoit absolument de trois manières. Quand vraiment un homme il est construit, il perçoit sa neshama de trois manières différentes. Et quand il marche, c'est un peu comme David il dit, mes pieds ils m'amènent au Beth Amidrash. Ça veut dire que sa neshama elle est vraiment à l'œuvre jusqu'à donc quand il marche. Et il le perçoit, il le sent. Il y a des gens quand ils parlent, kol atzmotai tamar nakel. Ouais, kolatmotai, que la neshama, elle s'exprime par la parole. Ouais. Des fois, quand on parle, ce n'est pas notre neshama. Des fois, on parle, on est en pilote automatique. Des fois, on marche, on ne sait pas ce qu'on fait. Ce n'est pas la neshama qui s'exprime. Pas vraiment. Un petit peu, mais par derrière. Mais c'est surtout, c'est on est en autopilote. Oui, mais c'est même là, c'est des instincts, etc. Mais il y a des gens chez qui, quand ils parlent, c'est la neshama qui parle. Kolatmotai tomarna. Ouais. Et aussi quand on réfléchit, des fois on réfléchit à des bêtises. Donc des fois il y a des gens que toute leur vie ils n'ont jamais perçu cette neshama qui s'exprimait en elle. Donc elle est là, elle est cachée très très loin derrière. Elle est inconsciente en fait. Elle est cachée elle est cachée bien profondément. Mais quand un homme, c'est un homme qui aboutit, c'est un Adam HaShalem, alors sa neshama elle s'exprime en lui par ses trois biais, par le biais du corps, dans son corps, ouais. Dans son corps, il voit Hachem. Dans sa parole, il y a la neshama qui s'exprime, et même dans sa réflexion. Mais sinon, il est vivant. Donc, il a une neshama. Elle est là. Si je suis vivant, c'est parce qu'il a j'ai une neshama. Mais la neshama, elle s'exprime pas autant que ça. Donc, dit le Maharal, ça sort comme ça. Dans le premier Beth Amikdash, puisque les gens étaient des gens particuliers, c'est des gens construits, des gens bnouim. Alors, la neshama dans ces individus, elle s'exprimait de part dans ces trois niveaux-là. Et donc, le Beth Amikdash était un Beth Amikdash où la kdusha, elle était vraiment tripartite. De la même manière que chez l'homme, chez les gens, la neshama, elle s'exprimait à ces trois niveaux. Quand on rentrait dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il pouvait vraiment voir ces trois niveaux de kdusha. Quand Yom Kippour, il passait du Khatser, de la Hazara, il rentrait dans le Echal et qu'après, il continue dans le Kodesh HaKodashim. Il percevait vraiment chaque niveau de Kdusha. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, il est à l'image de l'homme. Et si l'homme, il est construit et que la Neshama chez lui s'exprime de trois manières, alors la Kdusha dans le Beth Amikdash aussi, elle s'exprimait de trois manières, de plus en plus élevées. Ouais. Mais dans le deuxième Beth Amikdash, que les gens, ils n'étaient pas tellement élevés, alors la Neshama, elle était là. Mais on ne pouvait pas distinguer chez l'homme, on ne peut pas distinguer les effets de la neshama quand il marche ou quand il parle. Et même quand il réfléchit, ce n'est pas sûr. Donc en fait, la neshama, elle était là, mais elle n'était pas tellement palpable. De la même manière que quand il y avait le Beth Amikdash, la présence divine, elle était palpable. Alors que c'est ce qu'on appelle la shrina, elle est Beit Galia, la shrina, elle est dévoilée. Et après, aujourd'hui, même dans tout le Beit Sheni, Vanochi Aster Astir Panai, et on est dans le sujet de Purim. Mais dans le deuxième Beth Amikdash, Dieu, il est là, il est aux manettes, mais il n'est pas vraiment perceptible. Donc, dans le deuxième Beth Amikdash, les gens, ils n'étaient pas à la hauteur. Donc, en fait, la Neshama, elle était là parce qu'ils sont vivants, mais on ne peut pas distinguer les trois aspects. Donc, On voit juste le fait qu'il y a la neshama. Cet homme, il parle, il marche, il réfléchit. Mais on ne peut pas distinguer vraiment les effets de la neshama. Non. Ouais. Oui. Elle n'a pas le contrôle. Elle n'est pas toujours en contrôle. C'est-à-dire que l'homme, il peut avoir une neshama, il peut être conscient de sa neshama, comme on avait vu avec Ménaché, mais il dérape parce que le Yetzer Hara, il est trop fort. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas dire, moi, si ma neshama était plus élevée, ça irait bien. Ils se battent pour le contrôle. La neshama et le tzara, ils sont en lutte pour le contrôle. Donc il dit, donc, dans le premier Beth Amikdash, il y avait donc forcément ces trois fautes-là. Puisque chez l'homme, il y a ces trois niveaux, donc dans le Beth Amikdash aussi, ces trois niveaux, ils s'expriment. Et puisque il y a ces trois Gdushot et les Malamisés, donc il y avait trois fautes. Et c'est pour ça que le premier Beth Amikdash a été détruit par trois fautes. En cela, qu'il y avait... Le premier Beth Amikdash est un endroit d'expression de la Kdusha de manière différenciée. Et ces trois Averot, elles venaient se battre contre ces effets, contre ces manifestations de la Shrina. Ouais. Et quoi? Et encore une fois, puisque la force naturelle, elle, amène la nature, c'est vrai qu'il y a la Shrina qui nous donne qui nous donne la vitalité, mais c'est intéressant. C'est que paradoxalement, le fait que la Shrina, elle nous donne la vie, mais cette vie qu'elle nous donne, c'est une vie qui nous attire vers les Taavot les plus basses. Pourquoi? Parce que ça fait fonctionner le corps, ça fait fonctionner le corps, et le corps, il aspire à des choses. Donc, paradoxalement, le fait que la Shrina me fasse vivre et active mon corps, ça active aussi mes Taavot. Et plus, c'est qu'un plus. Quelqu'un, il a sa shrina qui est développée chez lui, plus sa tava elle est développée. C'est incroyable. Parce qu'en fait, plus sa shrina elle est développée, plus sa vitalité elle est grande. Plus son corps il est vivant. Et plus le corps de quelqu'un il est vivant, plus il a tavot. Donc en fait, le fait même que la shrina elle était palpable et qu'il y avait cette doucha, mais cette doucha, paradoxalement, elle amène à une plus grande tava. Et donc, ça amène au znout. Et dans le cœur, plus on est vivant, mais il y a dans les forces du cœur, qu'est-ce qu'il y a? Quand moi j'ai un cœur, la shrina, elle me fait que je suis plus vivant, j'ai plus d'émotions, mais il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives. Donc quand la neshama, elle donne vie à mes sentiments, elle donne vie à mes sentiments positifs, mais si je ne fais pas attention, elle développe aussi mes sentiments négatifs. Et donc, la haine et la vengeance, ils deviennent sublimés. Donc, il y a plus de meurtres. Et aussi, dans l'intellect, mon cerveau, il ne pense pas toujours droit, mais puisque mon cerveau est plus actif, il a plus de chances de penser de travers. Quoi? J'entends. Alors, voilà. Et donc, c'est de là. Ouais.
Enfin, j'aurais dû poser la question bien avant, mais je n'ai pas réussi à vous interrompre. Vous dites que la notion de Nefesh ici et de Neshama, ce serait la même chose. C'est-à-dire quand les Rishonim mentionnent en fait, cette notion de Nefesh chez l'homme qui a différentes kohot, pour vous, c'est une référence à la Neshama, ça vient de la Neshama, cet aspect-là. Il n'y a pas une notion de Nefesh qui est indépendante de la Neshama normalement. Le
Ben en fait,
psychisme, la force vitale du corps, etc. Enfin, quand on lit le Rambam dans le Poney Prakim, on a l'impression que c'est ça. C'est valable pour tous les hommes, quoi. Ça veut dire même pour un goy qui aurait pas de relakelokamimaal, etc., quoi.
à un certain niveau, le Maharal, ce qu'il dit ici, c'est que c'est ce qu'on appelle le Nefesh, le Ruach et le Neshama. On a une seule âme, ouais. On a une seule âme, mais dans les phénomènes de la chose, on va distinguer trois effets. On va distinguer trois effets, mais la chose elle-même, elle n'est pas palpable. C'est-à-dire, c'est voilà, voilà, c'est Kant qui dit qu'on peut reconnaître, il y a un philosophe qui s'appelait Emmanuel Kant qui dit qu'en fait, on ne connaît pas les objets en eux-mêmes. Ce que c'est ça, moi, je peux le percevoir qu'avec mes sens. Donc, je ne sais pas c'est quoi ça, mais je le touche et je le sens et je le vois. Donc, ce que je vois, ce n'est pas la chose elle-même. Pour ceux qui ne sont pas, il y a une armoire ici. Mais ce n'est pas la chose elle-même, mais c'est les effets que je ressens. Donc c'est ça que le Maharal il dit, la neshama, on ne la connaît pas, mais on en distingue les effets. Et puisqu'on en distingue les effets, on voit ça comme trois choses différentes. Même que fondamentalement, c'est une
Non,
seule
j'ai
chose.
compris l'idée. C'est-à-dire que que ce qu'on appelle Nefesh et Neshama, comment dire? Chez un goy, par exemple, t'as pas de Neshama. Pourtant, il a un Nefesh.
Mais on va dire que son âme, elle est limitée, mais que cette dimension, lui, l'âme qu'il a, c'est une âme qui est limitée. Et que cette dimension de spiritualité pure qu'on trouve chez le juif, elle, sa neshama, elle n'est pas assez, on va dire, pas assez forte pour avoir cet effet-là. Parce qu'en fait, sa neshama, elle n'est pas aussi pure ou elle n'est pas aussi forte que celle du juif. Et donc, cet effet que la neshama, elle a de sanctifier la pensée, d'élever la pensée, ça, la neshama du gars, elle n'aura pas ça comme impact. Ouais, mais
D'accord,
c'est
ok.
un, voilà.
Ok.
C'est un peu comme si je dirais, voilà, une voiture, elle a 80 chevaux. Si tu essayes de prendre les routes de montagne avec, ça marchera pas. Alors que la voiture qui a 110 chevaux, elle pourra le faire. Mais c'est pas, c'est un peu ça le machal. Il y a un seul moteur, mais il sera adapté dans différentes situations selon la puissance. Un peu ça le machal. D'accord. Alors le Maharal, il continue, il dit comme ça. Puisque quand le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, il était debout, alors Israël, ils étaient vraiment à leur élévation maximum. Et donc, il ressemblait à un homme qui est entier, un homme entier. Et la plénitude de l'âme, de par ces aspects-là, elle est de par ces aspects-là. Forcément, ils ont fauté dans ces trois choses-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une relation entre l'âme et le Beth Amikdash. Et ce qu'on trouve dans le Beth Amikdash, on trouve dans l'homme et vice-versa. Et donc forcément, toute cette kdoucha-là, paradoxalement, elle entraînait un retour de flamme. Parce qu'ils étaient saints, parce qu'ils étaient grands, parce qu'ils étaient entiers, alors leur tahava, elle était entière, leur jalousie et leur haine, elle pouvait être entière, et leurs erreurs intellectuelles, elles pouvaient être entières. Et pourquoi? Parce que l'homme, il a l'image du Beth Amikdash. Et donc, ils fautaient dans ces trois fautes-là. Et puisque les gens, ils ont fauté, donc ils se sont rendus impurs. Et puisque l'homme, il se rend impur, alors le Beth Amikdash aussi, il devient impur. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le Beth Amikdash et l'homme, ils sont absolument alignés. Ouais.
Une question
Ouais.
pour l'équivalence entre le tuer, c'est humain. Donc, comment l'intellect d'un homme au cercle assez élevé peut tuer?
Parce que le problème, c'est que quand mon cœur, il est rempli de jalousie, que je suis consumé par la jalousie, alors mon intellect, il n'a plus de contrôle. Parce que ça se joue à deux niveaux. Il y a les sentiments et il y a l'intellect. Et quelqu'un qui ne fait pas attention, il va pouvoir se retrouver à être complètement brûlé par sa jalousie. Et donc, son cerveau, il ne sera plus en contrôle. Même qu'il a un intellect très élevé, mais sa jalousie et son monde des sentiments, il est trop débordant pour qu'il se retienne.
Non, souvent, on peut chuter dans la mais tuer une personne, même sur une haine
Parce
viscérale.
que je pense,
Non, non, on peut, je ne fais pas. Moi, pour une personne qui est intégralement élevée, on voit les brunes des fois, les brunes qui sont élevées, ce n'est pas parfait. La vie par champ éclaire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais comme un juif, il peut arriver avec un intellect élevé, arriver à quelque chose de inhumain, quoi, quelque chose comme ça.
D'accord. Alors la question que pose Monsieur Lévy ici, c'est la suivante. C'est comment quelqu'un qui est intellectuellement élevé, il peut s'adonner au meurtre? Et je pense que la réponse, elle est qu'en fait, on ne connaît pas vraiment la haine. On a eu la chance de ne pas connaître la haine et la jalousie. Mais ceux qui l'ont connu, ils pourront témoigner que c'est quelque chose de débordant, où il ne reste plus rien après. D'ailleurs, dans la littérature, pour ceux qui voient, elle donne des exemples de jalousie et on voit qu'à quel point c'est
De
totalitaire. D'accord.
toute façon, c'est de l'ordre de l'émotion plus que de l'ordre de l'intellect en général quand on tue quelqu'un. Ça veut dire
Oui.
que les émotions, elles dominent largement l'intellect à ce moment-là. Quelqu'un qui est pris de. Enfin, tous les meurtriers, c'est des gens qui ont un psyché qui est atteint, quoi. C'est ça veut dire. C'est pas dans la logique, c'est un sentiment, une émotion tellement forte qu'on se contrôle plus.
C'est ça. Mais voilà, et comme il disait, ben, par exemple, il y a l'exemple, c'est Shaoul qui est empli d'une jalousie absolument, une jalousie et d'une haine qui sont quelque part absolument irrationnelles et qui finissent par le consumer. Il ne reste plus rien, quelque part, de Shaoul. Il y a un moment où Shaoul, il n'est que jalousie. Voilà, c'est dans la Haftara de Maharal Chodesh, où tellement il est jaloux qu'il est prêt à tuer son fils, où il ne reste plus rien, parce qu'en fait, voilà. Mais ça, c'est de l'ordre des émotions qui étaient spécifiques quelque part au Beth Amikdash, au premier Beth Amikdash. Mais dans le deuxième Beth Amikdash, c'était pas tellement élevé. Ouais. Donc on peut pas dire que c'était. Donc le deuxième Beth Amikdash, c'était à l'image d'un homme comme nous. On est homme. Est-ce qu'on peut dire que la Neshama, elle transparaît dans chacune de nos actions, chacune de nos pas, chacune de nos paroles? Non. Mais on sait, on est vivant, donc on a une Neshama. Mais on ne parle plus des effets de la Neshama. On sait juste, comme on dit tous les matins, Neshama, Shena Tatabi, Teoraï. Ouais. C'est ça. Mais on a une Neshama. Mais on le sait. Mais on n'en voit pas les effets. Donc, mais c'est quelque chose de beaucoup plus. Alors, c'est quoi qu'on a? C'est ce qui nous permet de vivre. Mais du coup, puisqu'on parle de la Neshama elle-même, alors on parle, la Neshama elle-même, justement, elle a comme propriété de rassembler tous ses effets. Mais c'est une Neshama qui a plein d'effets. Et donc, la Neshama, le propre de la Neshama, c'est de prendre toutes les forces de l'homme et de les faire fonctionner. L'homme, il a un cerveau. Ouais, avant la Neshama, on a un cerveau. D'un point de vue physiologique, on a un cerveau, on a un cœur, on a un pouvoir de croissance, on a une vitalité. Mais la Neshama, elle prend ces forces-là et elle les dirige. Donc en fait, la Neshama, elle rassemble toutes les forces pour faire qu'en fait, on n'est pas trois personnes différentes. Il y a Rav Yosef, il dit, si on n'avait pas la Torah, Kama Yosef Ika Beshuka, ça veut dire, je serais complètement éparpillé aux quatre vents. La Neshama, quelque part, elle nous centre. Ouais. Les gens qui sont fous, ils sont plus centrés, ils ont plus de contrôle. Leur main, elle va. Ou les gens qui sont malades, par exemple, bah, ils ont plus de contrôle, soit de leurs pensées, ils savent même plus reconnaître la réalité. Ils ont plus le contrôle de leurs sentiments. Ou ceux qui sont malades, des fois, ils ont plus le contrôle de leurs gestes. Mais la Neshama, elle va prendre toutes ses forces, elle va les réunir à l'image du peuple juif qui réunit tous ces éléments. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on dit, il y a Nefesh Ruach Neshama, Chaya Yechida. Yechida, c'est quand on prend toutes les âmes du peuple juif. En fait, il y a une âme du peuple juif et elle se sépare dans chacun des individus. Mais ça, c'est à l'image de la Neshama. Et donc, quand en plus on tombe dans la haine, alors en fait, on dissout la Neshama du peuple juif et en fait, quelque part, même notre Neshama elle-même, elle est atteinte. Parce que si ma Neshama, c'est une Neshama qui monte, qui vient du Kissa HaKavod, et qu'en fait, ma Neshama, c'est une émanation d'une Neshama collective, ben ma Neshama, elle est beaucoup plus grande que ce qu'elle est individuellement. Parce qu'il y a moi, il y a toi, il y a tout le monde. Mais la haine, elle détruit. La haine, elle, non content de détruire cette ardoute entre les gens, elle me détruit ma propre Neshama, et même d'un point de vue psychologique, hein, qui est mangé par la haine de l'autre. Il ne mange plus, il ne boit plus. Encore une fois, c'est Aman qui est tellement consumé par la haine qu'il en cesse de vivre. Pourquoi? Parce que la Neshama qui est dans la haine, elle a plus de contrôle sur le corps, elle a plus de contrôle, elle a plus le pouvoir de rassembler toutes les forces de l'homme sous un même étendard. Ouais. Et donc c'est pour ça, c'est ce qui dit que la sinatrina ma chère ou chilouk va perud ou efer et tsemanefesh vokolel la kol. La Neshama, elle rassemble toutes les forces. La haine, c'est l'inverse de la Neshama. Donc quelqu'un qui est mangé par la haine, il ne laisse plus à sa propre Neshama la force le pouvoir de s'exprimer. Donc en fait, sa Neshama lui dit, mais mange. Il dit, non, j'ai trop la haine. Il dit, mais dors. Non, j'ai trop la haine. Mais va faire des choses. J'ai trop la haine. Réfléchis. Non, j'ai trop la haine. C'est-à-dire que la haine, elle fait perdre prise à la Neshama. Parce que la Neshama, elle cherche à rassembler toutes les forces du corps sous un même étendard. Et la haine, c'est un pouvoir de dissolution. Et c'est pour ça qu'on dit que la sinatrinam, elle est équivalente aux trois fautes. Parce que les trois fautes, elles agissent pas sur la neshama en elle-même. Les trois fautes, elles agissent sur les effets de la neshama. La neshama, elle veut que mes actions, que mon corps, ce soit un corps sain. Elle veut que ma parole, ce soit une parole saine, que ma pensée, ce soit une pensée saine. Les trois fautes, ça agit sur, ça empêche la neshama de s'exprimer. La neshama, elle veut s'exprimer dans mon corps. Le Guilouyariot, il empêche à la Neshama de s'exprimer dans mon corps. Le meurtre, il empêche à la Neshama de s'exprimer dans ma vie. Au lieu de vivre, il me rend jaloux. Au lieu de penser juste, il me fait penser faux. Donc c'est une négation, pas de la Neshama, mais des effets de la Neshama. Mais la sinatrinam, c'est quelque chose qui détruit la Neshama en elle-même, parce que la Neshama, elle cherche à rassembler, et la haine, c'est la volonté de tout dissoudre, de qui est rien de réuni. Et le résultat, c'est quelqu'un qui déteste, en fait, même sa propre âme, quelque part, elle est détruite. Voilà, c'est une idée très profonde que, bizarrement, pour ceux qui ont lu Harry Potter, ils retrouveront l'idée. Non, c'est l'idée des Horcruxes.
Alors,
C'est les Horcruxes. J'ai pas.
je n'ai pas dit que dans le style de la
Mais c'est vrai, c'est sûr. Donc, bien sûr que le fait qu'il y ait la sinatrinam, ça empêche ma neshama d'être mechouberet avec les autres neshamot. C'est vrai, mais je dis que c'est plus que ça, parce que ma neshama, ce qu'elle est, c'est une force unificatrice. Ouais. Il y a un Mamar Chazal qui dit que de la même manière que Dieu il est unique, de la même manière la neshama elle est unique. Et quand on dit qu'elle est unique, c'est pas qu'il y a une seule, c'est qu'elle rassemble. Et la haine, c'est la volonté, pas de rassembler, mais de disperser. Donc en fait, j'ai une force qui me domine, qui est à l'inverse de ce que ma neshama elle veut. Donc il y a une lutte frontale directe entre ma haine et ma neshama, et qui va abîmer, qui va me détruire, qui va s'attaquer à la neshama elle-même. Donc sinatrinam, quelque part, c'est plus dangereux, c'est plus pernicieux que les trois fautes. Les trois fautes, elles n'agissent pas sur la neshama, elles agissent sur l'effet de la neshama. Alors que la haine, c'est quelque chose qui s'oppose à l'idée même de la neshama. Ouais. De chaque être humain, de chaque être humain. Et en fait, l'idée, elle est plus que ça. Il y a un Midrash, un Mamar Chazal qui dit comme ça, que, il y a un Mamar Chazal qui dit comme ça, que chaque fois que Avraham et Sarah, ils vivaient intimement, ça créait des neshamot pour les guérir. Un Mamar Chazal très vite, très étrange, que chaque fois qu'Avraham et Sarah, ils vivaient intimement, ça créait des neshamot pour les guérir. Rav Dessert, il dit qu'en fait, la neshama, c'est une vocation. C'est qu'en fait, c'est quoi ma neshama? C'est une vocation. C'est un tachlit. C'est un tachlit. C'est une finalité. Et qu'en fait, comme on a dit que c'est le kavod d'Hachem, mais c'est une finalité. Il y a un projet. Ma neshama, c'est un projet. Et en fait, quand on a des gens qui vivent tellement Bigdusha, que ça inspire des vocations aux autres, même d'un point de vue humain, quand on voit des gens, que il y a des gens que tellement leur shalom bayit il est grand, que même si on ne voit pas le détail, mais quand on les voit dans la rue, on dit, ah, c'est des gens spéciaux, je veux leur ressembler. Et ça inspire une vocation. Et cette vocation, dit Rav Dessler, c'est quelque part un morceau de Neshama. Et donc, en fait, Avraham et Sarah, ils créent des vocations. Et une vocation très forte qui nous est chevillée au corps, c'est un projet de vie, c'est une Neshama. C'est ça la Neshama. Ils développent cette idée. Et donc, le projet de vie de la Neshama, c'est d'être à l'image de Dieu, de tout rassembler. Ça, le projet de rassembler toutes les forces de l'homme en une seule chose et de rassembler tout le monde. Au fond, c'est ça notre projet de vie. Et donc, la haine, c'est quelque chose qui dit, en fait, c'est un anti-projet de vie. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment attaquer de fond la Neshama. Et donc, vraiment, la sinatrinam, elle est équivalente aux trois fautes. Et quelque part, elle est même pire. Voilà. Donc c'est ça l'idée que le Maharal il développe. D'accord. Donc il dit maintenant qu'il va se répéter. Donc il va dire comme ça. Et donc la faute va'yah achet b'migdash. On n'est pas Samer Zayin. Donc Samer Zayin va'yah achet b'migdash. C'était quoi? C'est Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfikut Damim. Et dans le deuxième Beth Amigdash, c'était Sinatrinam. Ouais. Pourquoi? Parce que comme on a dit, dans le premier Beth Amikdash, c'était juste de faire attention à ces trois choses-là. Justement, s'ils avaient voulu conserver le premier Beth Amikdash, ils auraient dû justement se sanctifier de ces trois avérotes-là. Ouais, puisque dans le premier Beth Amikdash, il y avait beaucoup de Kdusha, et donc il fallait s'écarter de la Touma. Et comment est-ce qu'on se rend pur? Comment est-ce qu'on se rend pur? Comment est-ce qu'on est pur? En évitant la Touma. Donc celui qui est Poresh, d'Avodazara, Guluerod, Shufrudamim, il est pur et il conserve le Beth Amikdash. Et donc forcément, le Yetzer Hara qui cherche à tout détruire, comme on avait vu précédemment, il va les attaquer justement sur le terrain de la Touma et de la Tahara. De quoi justement de les rendre impurs? Leur corps, leur parole et leur intellect. Mais dans le deuxième Beth Amikdash, que ce qui est le fin fond du Beth Amikdash, le thème du deuxième Beth Amikdash, c'est le Chibour et la Ahdout. Donc, ils auraient dû se renforcer justement sur la Ahdout. C'est là-dessus, c'est à ce moment-là que le Yetzer Hara il se bat pour justement créer la désunion. Parce que comme on a dit, le Yetzer Hara il attaque là où est la grandeur, parce qu'il cherche à casser ce qui est grand, comme on avait expliqué à l'avance. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu peut-être expliquer les phénomènes qu'on voit en Eretz Israël où vraiment tous les bords s'entre-déchirent alors qu'il n'y a pas un moment qui était plus désigné pour la Hardoute que l'année qu'on a passée. Mais ils s'entre-déchirent. Et des gens intelligents là-bas, il ne faut pas croire que c'est tous des. Voilà. Et ils s'entre-déchirent. Chacun de ces des camps, il ne peut plus se voir l'autre en peinture. Comment ça se fait? Parce que justement, puisque c'est un moment où la Ahdout, elle devrait être à son apogée, alors le Yetzer Hara, il est là. Il a vu qu'il y avait un départ de Ahdout. Il y avait un départ de Ahdout après 7 octobre. Et donc le Yetzer Hara, il a dit non, non, on ne veut pas de ça. Donc il se bat, le Yetzer Hara, il se bat de toutes ses forces, justement, pour empêcher que s'érige un grand édifice. Donc il dit comme ça, Klal Hadavar, que ces deux choses, elles sont équivalentes, le Mikdash et l'homme. Parce que dans le Echal d'Hachem, il y a la gloire d'Hachem qui rayonne, et à l'intérieur de l'homme réside la gloire de la Neshama. Et la Neshama qui réside dans l'homme, c'est comme la gloire d'Hachem qui réside dans le Beth Amikdash. Comme il y a marqué dans le premier perek de Brachot, on va essayer de finir le perek. On sait qu'il était plus court. D'accord. Donc il dit, dans Brachot, il y a marqué comme ça, que David HaMelech, il a dit, 5 Bachi Nafshi Et Hachem. Il y a 5 Bachi Nafshi Et Hachem. Pourquoi? David, il les a dit face vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et vis-à-vis de la Neshama. De la même manière que la Neshama, elle remplit le monde, de la même manière que Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde, de même la Neshama, elle remplit l'homme. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il voit et il n'est pas visible, la Neshama, elle voit et elle n'est pas visible. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il nourrit le monde entier. De la même manière, la Neshama, elle nourrit le corps. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est pur, la Neshama est pure. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est installé, Bechadri Chadarim, il est caché, il est dans la pièce la plus intérieure. De la même manière, la Neshama, elle réside à l'intérieur, dans la pièce la plus profonde. Que vienne celui qui a en lui ces cinq choses-là et qui loue celui qui a ces cinq choses-là. L'homme qui a la Neshama, qui ressemble à la Shrina, à Kadosh Baruch Hu, par cinq aspects, c'est lui qu'il doit louer Dieu. Ouais, c'est pour ça qu'il y a cinq Bachi Nafshi et Hachem. Il y a cinq aspects où la Neshama, elle dit, Hachem et moi, on a kaviyachol, quelque chose en commun, donc je peux être Meshabéach. Je reconnais la chose et donc je peux faire une louange. Ouais. Et donc, quand les forces de la Neshama, elles étaient Bigdusha, alors, et qu'il n'y avait pas de Touma, et qu'on n'avait pas rendu impur le monde, alors Hachem, il était mamash shochen b'echal shelo, b'ebaretz, bikdushatam. Quand l'homme, il est pur, alors Hachem, il réside aussi parmi les hommes. Mais quand il y a de la Touma, alors l'homme, il est tamé, et la résidence d'Hachem, elle devient impure. Et il dit ça sur ce sujet-là, sur cette équivalence qui existe entre l'homme et le Mikdash, il y a des rayot brurot, et on va pas développer plus que ça. On ne va pas développer plus que ça. Mais il dit, il y a encore un autre sod, Nistar Venehelam. Pourquoi est-ce que. Donc là, il dit, je vais vous parler de choses très profondes. Pourquoi est-ce que le Beth Amikdash Harishon, il a été détruit par les trois péchés cardinaux, et le deuxième Beth Amikdash par la Sinat Frinam? Et il dit le Maharal comme ça, Vefaresh oto beremez vetavinoto. Ouais, c'est la Kabbalah dont on parle ici. Le Maharal, il nous transmet ce qu'on appelle Rashi Prakim. C'est les têtes de chapitre. Et le reste, il faut le déduire tout seul. C'est quoi? Et ils disent, tout ce qu'on a dit avant, c'était des choses profondes. Mais ça, c'est un grand secret. C'est que le premier Beth Amikdash, il était là, Bisrout, les Avot. Il y a trois Avot. Il y a trois Avot. ouais, que les trois avodes, ils sont plus grands que le peuple juif, puisqu'ils sont à la base du peuple juif. Les trois avodes, ils sont avant le peuple juif, ils sont au-dessus du peuple juif. Et c'est connu qu'Abraham, sa madriga, c'est qu'il était Poresh Minerva. Ouais, pourquoi? Il était Poresh Minerva, il était Poresh Minarayot. C'est-à-dire, moi, dis dans Bava Batra, que Iyov, il a dit, Brit Kartile Enaim ou Maïd Bonan Albedoula. J'ai fait un Brit, une alliance avec mes yeux, je ne regarderai pas une jeune fille. Ouais. Donc, les jeunes filles qui n'étaient pas les siennes, il les regardait. Mais sa femme, il a regardé. Tandis qu'Abraham, il dit, Inena yadati kishaefat mareat. Maintenant, je sais que tu es une belle femme. Mais en fait, Abraham était tellement kadosh que même sa femme, il la regardait pas. Ouais. Donc, Abraham, sa madriga, c'est prichout de la erva. Yitzhak, c'était la fuite de la Vodazara. Pourquoi? Parce qu'il est Olat Mima. C'est un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est l'antithèse de la Vodazara, puisqu'il s'est sacrifié lui-même pour Akadosh Baruch Hu. Et Yaakov, c'est la vie. Comme on dit que Yaakov l'omet. Et donc, puisque c'est la vie, c'est l'antithèse de Shfichut Damim. C'est d'ailleurs pour ça que son ennemi, c'était Essav, qui était rouge et qui était un assassin. Et Yaakov, c'est l'inverse de Essav. Et à part ça, on dit que Jacob, il n'a pas vu d'émission séminale. C'est-à-dire que même, on dit qu'avoir une émission, Shirvat Zera le Batala, c'est quelque part une forme de meurtre. Et Jacob, ça lui est jamais arrivé. C'est-à-dire que Jacob, c'est l'antithèse de la mort. Chez Jacob, tout est vie. Ad ke Descartes que Jacob avait nous l'omet. Ouais. Donc, le premier Beth Amikdash qui avait été construit grâce au Avot, était construit grâce au Havot et grâce au Mahalot que l'Havot ils avaient placé. Et donc, il existait par ces trois Mahalot, Prishut Minerva, Prishut Mishfichut Damim et Prishut, la fuite de Avodazara. Alors que le deuxième Beth Amikdash n'était pas tellement grand et il correspondait juste à la Mahala de Knesset Israël. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a les Havot et les Havot, ils sont très élevés. Et les Havot, ils donnent naissance à Knesset Israël. Mais Knesset Israël, c'est un enfant. Il n'est pas aussi élevé que ses ancêtres. Et donc, c'est pour ça que Chachamim ils disent que quand le premier Beth Amidash a été détruit, Tama Srut Avot. Le Srut Avot, il s'est fini. Pourquoi? Parce que justement, l'impact des Avot, il était palpable au travers du Beth Amidash. Est-ce que les Avot, ils avaient vraiment leur caractère individuel? Il était encore palpable dans le peuple juif. C'est-à-dire que le peuple juif, il ressentait en lui ces habitudes que les Avot, ils avaient. C'est-à-dire que quelqu'un, il se vivait encore comme le descendant d'Abraham, le descendant de Yitzhak et le descendant de Jacob. Et les qualités des Avot, elles se ressentaient encore dans le peuple juif et dans le Beth Amikdash aussi. Et quand le premier Beth Amidash a été détruit, ça veut dire que l'impact, le Srout Avot, l'impact, l'influence des Avot, elle s'est tarie dans le peuple juif. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste le fait que le peuple juif, c'est un peuple spécial. Oui, mais ça a tenu jusqu'à la fin du premier Beth Amidash. Et au deuxième Beth Amidash, il restait plus que le fait qu'on est le peuple juif. Et donc la doucha du peuple du deuxième Beth Amidash a été pas du point du fait des Avot, mais du fait du peuple juif. Et ce qu'on appelle Knesset Israël, le rassemblement d'Israël, et la Sinatrinam, elle annule justement le Kinnous, le rassemblement du peuple juif. Ouais. Puisque pourquoi c'est Knesset Israël? C'est parce qu'il y a une union et il y a une ardou du peuple juif. Donc la haine, elle défait la malade de Knesset Israël. Et c'est ce qui a marqué que le deuxième Beth Amikdash a été détruit à l'aide Sinatrinam. Il a été détruit à l'aide Sinatrinam. Ouais. Et ça, c'est des choses qui ont l'air légères, mais c'est des choses qui sont profondes. En fait, l'idée qu'il dit ici et dans les Haaretz de Rav Hartman, il fait référence à ça. C'est qu'on sait que dans les Midot, il y a ce qu'on appelle les vraies Midot. Gdoula, Gvoura, Tiferet, Netzar, Netzar et Od et Yesod. Et il y a ce qu'on appelle Malchut. Malchut, c'est. Comme on a dit, Malchut, c'est quoi l'idée de Malchut? D'ailleurs, dans la Megillah, on parle beaucoup de Malchut. C'est quoi? C'est comme qu'on a un ministère, on a le ministre de l'Intérieur, on a la police. Le ministre, il donne des ordres, et il dirige et il navigue. Et la police, c'est l'intérêt, c'est la réalisation des directives du ministre. Ouais, la malchoute, c'est il y a le gouvernant et la malchoute, c'est la gouvernance ou c'est l'État qui est gouverné. Knesset Israël, ça fait référence à cette chose-là. Knesset Israël, c'est le peuple juif et le peuple juif, c'est l'expression, c'est la Shrina, c'est l'expression de la volonté divine. Mais Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas l'expression de la volonté divine, c'est quelque part des aspects de la volonté divine elle-même. C'est des aspects directeurs, c'est comme des ministres. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est comme des ministres. Alors que le peuple juif, c'est comme les corps d'État, c'est comme, on va dire, la police ou l'armée qui sont des exécutants mais qui ne dirigent pas. Donc Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils représentent quelque part des aspects de la Hanaga divine qui dirige. Knesset Israël, c'est un niveau plus bas. C'est le fait que maintenant Dieu dirige le monde. Mais le peuple juif, il est l'expression de Dieu qui dirige le monde. Mais le peuple juif, quelque part, il est plus aux manettes. Dans le premier Beth Amikdash, le roi, il était juif. Il y avait des rois juifs. Pourquoi? Parce que celui qui dirigeait, il était l'émissaire d'Hachem et c'est lui qui dirigeait le monde. Il y avait un roi juif qui était l'envoyé de Dieu pour diriger le monde. Dans le deuxième Beth Amikdash après Esther, Melech, c'est Melech Achashverosh et c'est le Malko Shalolam. Ça veut dire que Dieu ne se sert plus des Juifs pour diriger le monde. Mais quand on voit les Juifs, on voit que Dieu dirige le monde, comme Esther. Grâce à Esther, on comprend que c'est Dieu qui dirige le monde. Mais le monde, il n'est plus dirigé par le peuple juif. Et c'est ça la différence entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Et c'est un petit peu du grand sod que le Maharal, il ouvre un peu les portes ici. Voilà, on va s'arrêter là. Bon.
D'accord.
Merci.